des livres plein les oreilles. Bonjour à vous toutes et vous tous. Oui, j'ai parfois du mal à rentrer sur cette musique-là parce que je la trouve tellement agréable. Mais bon, là quand même, il faut que je vous salue, que je vous accueille aussi à cette nouvelle édition de l'émission des livres plein les oreilles. Encore une fois, des invités, beaucoup d'émotions, encore aujourd'hui, notamment avec Louise Dupré que je vais accueillir. Louise Dupré, dont vous avez souvent entendu parler à l'émission des livres plein les oreilles, à qui l'on doit, entre autres, le livre La Voie lactée, mais aussi l'album multicolore, et c'est de ce livre-là qu'elle va nous parler dans quelques minutes. Avant Louise Dupré, je vais m'entretenir avec Gaston Loubier qui a lu pour nous « Ma vie comme rivière » de Simone Monet-Chartrand. D'ailleurs, le livre de Louise Dupré et de Madame Monet-Chartrand ne sont pas complètement étrangers l'un à l'autre et je trouve ça assez remarquable. Et puis, il y aura la bande-annonce du jour consacrée à Stanley Péan que je reçois la semaine prochaine. Il y aura une rubrique sur ma table de chevet. Il y aura aussi une rubrique des nouvelles et des livres et nous finirons évidemment cette émission par quelques titres en rafale. Je vous rappelle que le service du SQLA via BANQ est absolument gratuit pour obtenir tous les livres dont nous parlons. Je vous laisse un numéro de téléphone. Il s'agit du 1-866-410-0844 si vous voulez obtenir des informations. Je rappelle ce numéro, le 1-866-410-0844. Bonjour Monsieur Loubier, Gaston, comment allez-vous?
Bonjour Madame Clotilde, ça va très bien, merci.
Oui.
Et vous, depuis les dernières semaines que l'émission a commencé, c'est parti pour la gloire.
Oh ben écoutez, je l'espère. En tout cas, on travaille fort pour ça et vous faites partie de ce gros travail que nous faisons, Gaston.
Oui.
Mais oui, vous, si fidèle, non seulement auditeur, mais aussi lecteur de livres audio adaptés. Et encore aujourd'hui, spontanément, vous m'avez dit oui, il faut que je vienne, mais j'hésite entre deux bouquins. Alors, je voudrais quand même qu'on prenne une ou deux minutes pour que vous nous parliez d'abord du livre de Jean Garon pour tout vous dire. Parce que c'est en écoutant l'émission que vous avez eu envie de le lire. Hein?
Voilà. C'est au printemps dernier, en fait, compte, parce que je dois me confesser que depuis, j'ai eu l'oreille assez paresseuse. Je n'ai lu que 3 volumes. Mais quand on s'est quitté au printemps dernier, oui, j'ai entendu le commentaire de ce volume-là qui a piqué ma curiosité.
Oui.
Et effectivement, je l'ai lu avec avidité parce que c'était un ministre de l'Agriculture dont on se souvient le nom.
Oui.
Et j'ai vraiment découvert en ce type-là, pas que c'était un gros ministre, mais un grand ministre.
Oui, c'est ça.
Ah, il a apporté,
c'est ce que tout le monde a dit. Hein.
Oui.
Après,
ah,
après
oui,
sa disparition.
À la collectivité, puis il est bon raconteur.
Ah oui. Ah,
oui,
oui,
hein. Oui. Alors, ça m'a beaucoup plu, mais naturellement, les gens peut-être intéressés à ce type de lecture sont peut-être plus restreints, par exemple. Parce que moi, comme certains, je suis un peu plus bio que romantique.
La preuve, c'est que...
J'aime mieux les biographies un petit peu que les romans.
Eh bien, comme quoi, ça existe. Et il y en a aussi des gens comme vous. Et c'est pour ça que nous, nous en parlons aussi beaucoup à l'émission. D'ailleurs, vous le savez, on est vraiment multigenre.
Rien ne
nous rebute et je pense que c'est pour ça qu'on aime ça.
Voilà.
Gaston, c'est aussi la raison pour laquelle vous avez voulu nous parler de cette bio « Ma vie comme rivière » de Mme Simone Monet-Chartrand.
Bon, c'est une autre... c'est ça. Faut dire que j'ai resté surpris parce que c'est en 4 volumes.
Ah oui.
Bon, alors là, j'en ai seulement que 2 de lus. Ce soir, je commence le 3e.
OK, d'accord.
Mais déjà j'aime très bonne opinion de cette biographie-là encore. Des gens de cette envergure-là, on n'en a pas beaucoup, il faut les connaître. Puis il y en a peut-être plus qu'on ne le pense.
Oui.
C'est quand on entre dans leur vie qu'on les découvre.
Oui.
Et cette dame-là, à première impression, on se dit quel malheur qu'elle a eu de vivre avec Michel Chartrand. Mais non!
Mais non.
Hey, c'est une grande dame et elle a énormément investi dans pour les femmes.
Oui.
Pour le développement des femmes surtout.
Oui.
C'est qu'il fallait à l'époque, là, parce qu'elle est née dans les années 20, là, en 1919. Or, dans ces années-là, et ses parents, elle a eu une mère ordinaire, mais un père qui était député et juge. Mm-hmm. Donc, ça l'a conduit dans les écoles privées. Et ça m'a fait sourire aussi.
Oui.
Ici, un pensionnat, un couvent de religieuses, ici, là, Marie-Rose, que ça s'appelle, sur la rue Rachel, dans le village de Saint-Jean-Baptiste. Parce qu'à l'époque, ça devait être un village. J'ai découvert ça. Aujourd'hui, c'est la paroisse Saint-Jean-Baptiste.
Oui.
Mais élevée par des religieuses, très religieuses, la religion l'a un peu blessée, pas mal, beaucoup, diminuée. Il fallait que les femmes soient imperturbables, réservées, silencieuses. Puis ça ne correspondait pas à sa personnalité.
J'ai un petit extrait ici, dans le tome 1, page 83. Elle écrit « Je n'aime pas les vicaires et les curés confesseurs, ni les confessionnaux. Là-dedans, il fait noir et ça ne sent pas bon.
» Voilà.
Elle écrivait « Y aller toutes les semaines, c'est une corvée. Ça me rend malade. Il faut toujours que je m'invente des péchés véniels.
» Oui. Mais il faut ajouter à ça qu'elle était très impliquée dans la religion catholique.
Oui.
Elle a été membre de ce qu'on appelait la JEC dans le temps, là, la jeunesse étudiante catholique. Je peux en parler, j'ai fait partie de ces organismes-là quand j'étais jeune, au secondaire. Puis elle, naturellement, c'était la jeunesse étudiante catholique féminin. Parce que dans ce temps-là, on séparait le bon grain de l'ivraie.
Oui, vous avez raison.
Et elle a beaucoup milité et elle est même devenue représentante dans les différents... Puis là, c'était de reconstruire une personnalité, mais toujours dans un cadre de catholique, si on peut dire, mais pas religieux.
Non, c'est ça. Et puis finalement, on pourrait penser que lorsqu'elle se marie avec ce Michel Chartrand, avec cette nature énorme, avec cette personnalité, en plus, ils ont des enfants, elle devient tout d'un coup mère de famille.
Oui.
D'ailleurs, elle lui reproche à un moment donné, elle lui dit aide-moi un peu parce que moi, le rôle de mère à la maison, ça ne me fait pas. Et donc, tout d'un coup, cette femme-là, élevée dans une rigueur religieuse, mais qui n'était pas du tout dans des... On n'était pas de gauche à cette époque-là dans sa maison. Elle va dans des cours privés, autant que je sache. Donc, vous le disiez. Son papa est juge, c'est ça.
Oui, oui,
et là,
oui.
Donc, tout d'un coup, elle se trouve baignée dans, finalement, ce qui lui ressemble le plus, en tout cas, ce qu'elle apprécie.
Oui.
Et avec ce bonhomme-là, ce Michel Chartrand...
Mais elle l'a rencontré à l'intérieur des jeunesses étudiantes.
Ah, c'est là qu'ils se sont rencontrés.
Lui aussi, il était très, très militant, beaucoup plus qu'elle. Mais lui, c'était vers les ouvriers. Lui, il était révolté face à la vie que l'on imposait aux ouvriers comparativement aux grandes entreprises qui soutiraient de ces ouvriers-là. Lui, il était révolté puis il allait contre ça. Et elle, c'était la même chose. Mmh. Et elle s'est très bien entendue avec Michel Chartrand parce qu'ils avaient les mêmes idéaux, tu sais, de partage, d'égalité, de défense. C'est sûr que Michel Chartrand gueulait beaucoup plus fort, mais c'était pour se faire entendre. C'est un peu comme Falardo. Lui, il gueulait plus fort, mais il n'était pas capable d'endurer des injustices. Et elle puisait énormément chez Michel Chartrand la force de s'exprimer.
Oui, et le contraire devait être vrai aussi.
Ils s'inspiraient les deux. Et leur mariage était, semble-t-il, très difficile parce que ses parents n'étaient pas du tout d'accord à ce qu'elle fréquente puis qu'elle veuille marier ce type-là. Parce qu'il y avait un tout petit emploi comme imprimeur. Eux autres étaient dans une classe beaucoup plus supérieure.
Ben oui, c'est ça.
Mais elle a dit, contre vents et marées, c'est le genre de personne avec qui je vais être heureuse. Puis elle a abandonné le luxe pour... un petit peu aller vers les gens. Et c'est vrai, quand ils se sont mariés, elle a eu 5 enfants en 6 ans.
Et mon Dieu.
Fait que c'était pas facile. Mais j'étais avec Mme Françoise Gaudette-Smith qui allait donner des conférences chez les femmes, chez les agriculteurs. Puis elle faisait beaucoup de formations dans des cercles, des conférences, des cours de préparation au mariage pour dire vraiment ce que c'est qu'une relation entre homme-femme.
Oui, oui, oui. Mais enfin, d'ailleurs, quand elle allait là, quand même, elle disait à Chartrand à un moment donné, mais enfin, pourquoi serais-je la seule gardienne de ce bien précieux? Elle parlait de leur bonheur. J'ai comme un problème de conscience à refuser de participer au cours du service de préparation de mariage.
Ah oui.
J'ai en face de moi, Gaston, quelqu'un que je voudrais vous présenter tout de suite, qui est Louise Dupré.
Oui, Louise Dupré.
Bonjour, Monsieur Loubier.
Bonjour.
Je reçois Louise Gaston parce qu'elle a écrit un livre qui s'appelle L'album multicolore. Et là, je vais déjà empiéter un petit peu sur le temps d'entrevue que nous avons ensemble parce que il y a un point commun, c'est que finalement, Madame Monet Chartrand est la maman de Louise Dupré, qui est maintenant décédée il y a un peu plus de 3 ans à l'âge vénérable de 97 ans.
Oui.
Et le livre dont elle vient nous parler aujourd'hui fait état non seulement de cette disparition, mais surtout de l'après-disparition et comment on vit en tout. Enfin, en tout cas, j'en dirai pas plus pour l'instant parce qu'on va y revenir. Mais cette femme-là, et vous allez me le confirmer, même plutôt nous le raconter, Madame Dupré, il y avait des accointances communistes chez vous aussi.
Mon grand-père avait des sympathies communistes.
Ah, c'est ça.
C'était pas à l'époque de M. Duplessis, j'espère.
Bien sûr.
Bien sûr.
Mais il vivait à Sherbrooke, il n'en parlait jamais.
Oui, oui.
Parce qu'on ne pouvait pas parler de cette chose ignoble, de ces convictions ignobles quand on vivait à Sherbrooke.
Oui, oui, oui.
Alors, ma mère, c'est une femme de la génération de Simone Monet-Chartrand.
Oui, oui, oui.
Qui n'a pas eu la vie de Simone Monet-Chartrand, mais quand même, je reconnais bien, je souriais tout à l'heure quand vous parliez de plusieurs moments de cette époque-là. Et de ce que c'était le catholicisme. Et Michel Chartrand lui-même, quelle figure pour le Québec.
Ah oui.
Et voyez-vous,
je suis tombé aussi en sympathie parce que je viens d'Asbestos.
Ah, mon Dieu.
Avec la grève d'Asbestos, mon père a connu. Et puis, naturellement, j'ai la peau plus sensible à ce niveau-là. Puis, je sais fort bien, Sherbrooke, c'était notre capitale. On allait là régulièrement. C'est des grandes... personnalités, des grandes personnalités, puis on les connaît pas, puis il faut que vous en écriviez comme ça, là, des faits d'armes, là, des gens qui se sont impliqués, puis aujourd'hui, on essaie de prendre la parole. C'est grâce à tous ces gens-là.
Vous avez raison de le rappeler, Gaston.
Oui.
Mais malheureusement, est-ce qu'on prend la parole de façon, je veux dire, ces gens-là avaient le verbe « haut », mais ils avaient le verbe « beau » aussi.
Oui.
Et aujourd'hui, lorsque j'entends ce que j'entends, surtout en cette période de campagne électorale, c'est quand même assez triste.
Oui, madame, sauf que je dirais, on est à la naissance quasi de notre nation un peu. On a beaucoup à apprendre encore, à se parfaire. Je considère qu'avant, on avait de la difficulté à aller à l'école. Aujourd'hui, tous nos jeunes vont à l'école. Faut pas reculer trop loin pour dire... Moi, mon père n'a jamais été à l'école. Il ne savait pas lire ni écrire. Alors...
Mais j'ai l'impression que... Est-ce qu'ils en profitent assez? Ça, je ne sais pas, parce que j'ai l'impression qu'on ne se rend même pas compte de la chance que nous avons aujourd'hui de pouvoir envoyer nos enfants et nos petits-enfants à l'école.
on est peut-être dans une époque où c'est le prêt-à-porter puis le jeter tout de suite.
Oui, vous avez raison, c'est une belle expression. Gaston, je vais vous laisser, mais je sais que vous allez écouter la suite de notre émission. Je vais donc m'entretenir maintenant avec Louise Dupré, auteure de ce livre magnifique, vraiment très très beau, qui s'appelle L'album multicolore. À bientôt, Gaston.
Merci infiniment, j'écoute et je prends bonne note pour le lire.
Je vous embrasse fort.
Moi aussi.
Au revoir.
Allez, au revoir vous tous.
Alors nous y voilà, Louise Dupré, l'album multicolore, je vous le disais tout à l'heure dans notre couloir ici, le nombre de gens qui m'ont parlé de ce livre, un livre dans lequel vous évoquez la disparition de votre maman. Vous allez loin, vous allez jusqu'à nous parler de l'agonie de cette femme de 97 ans. Et finalement, après sa mort, vous décidez de prendre la plume. Pour vous faire du bien, pour vous souvenir, pour... Au départ, quelle était la raison? Pourquoi avez-vous choisi tout d'un coup d'écrire? Avez-vous ressenti le besoin d'écrire sur la mort de votre maman?
Je ne pourrais pas vous dire exactement. Sûrement parce que je savais que ça me ferait du bien, mais parce que j'ai ressenti un vide terrible après son départ. Je pense que c'est toujours terrible, la mort de la mère, parce que c'est notre origine, c'est là d'où on vient. Mais je ne savais pas qui était cette femme-là. Et évidemment, on sait qui est notre mère, on sait quel est le lien qu'on a avec elle, mais la femme qui est beaucoup plus grande que la relation qu'elle a avec nous, qui est-elle? Et je me suis rendu compte que quand elle vivait, moi-même, j'étais dans mes propres questionnements, dans ma propre vie, on est pressé, la vie va vite. Et j'ai eu l'impression de ne pas lui avoir posé suffisamment de questions. Et c'est ça, je pense, que tous les enfants se reprochent après, parce que là, il n'y a plus personne pour nous répondre.
Et pourtant, Louise Dupré, vous avez vécu avec cette femme des moments, je repense par exemple à cet épisode où vous lui proposez d'aller au cinéma, en sachant très bien qu'elle va dire non, et elle vous dit non, j'aime mieux rester pour jaser avec toi. Et donc, vous avez eu, contrairement, moi je sais que je n'ai pas eu ces moments-là, vous avez eu des moments où vous pouviez discuter avec votre maman, vous pouviez, et pourtant, vous ne lui avez pas tellement posé de questions.
Je ne sais pas pourquoi. Bon, sûrement par pudeur, ouais. Parce que les femmes de cette génération-là étaient très secrètes.
Ouais.
Elles ne nous disaient rien d'elles.
Non, c'est ça.
Bon, ma mère s'est mariée à 34 ans. Qu'avait-elle vécu avant? Est-ce qu'elle avait eu des amoureux? Est-ce que mon père était son premier amant? Qu'en était-il de sa vie sexuelle? Je n'en savais rien. Qu'avait-elle eu comme rêve dans sa vie? Est-ce qu'elle était contente de sa vie? Qu'est-ce qu'elle pensait vraiment? C'était une femme mystérieuse, dans le fond. Mm. Elle jasait beaucoup, mais elle parlait peu. Alors, comme beaucoup de femmes de son époque, qui ne savaient pas vraiment comment parler à leurs enfants. Et moi, j'ai voulu reconstituer dans ce livre-là, à partir de photos, à partir de phrases qu'elle m'avait dites, à partir de souvenirs, ce que je gardais d'elle et ce qui restait précieux pour moi, même après sa mort.
Vous dites à un moment donné que cette pudeur-là, vous l'avez aussi, vous la connaissez vous-même. Est-ce que le fait d'écrire, c'est parce que vous parlez peu?
Assez peu, oui. J'essaie de parler davantage maintenant, mais je crois que je dis dans mes livres beaucoup de choses que je ne dis pas dans la vie. Comme si le fait de m'adresser à des personnes qui me sont plus distantes, me permettaient de me confier davantage que je ne le fais avec mes amis.
Et Louise Dupré, comment votre mère a-t-elle vécu le fait, vous étiez quatre, trois enfants,
deux garçons
et
moi.
Vous. Hein. Et vous écrivez.
Oui.
Comment a-t-elle vécu ça? Bon, parce que j'ai un petit truc ici que j'ai tellement aimé à la page 162. À un moment donné, elle vous surprend en train de recoudre un ourlet sur une vieille jupe. Et puis finalement, ça donne lieu à une dispute. D'ailleurs, vous détestez ça. Vous dites à ce moment-là, oh, encore une fois, on se dispute. Puis ça arrive de plus en plus souvent. Et puis là, elle vous dit cette phrase terrible, elle vous dit « Bon, l'écriture, c'est ton affaire, je m'en mêle pas, mais la couture, c'est mon affaire à moi, je veux pas que tu touches à mes vêtements, tu m'entends. »
Oui. Je crois que pour beaucoup de ces femmes-là, qui ont désiré qu'on ait une meilleure vie qu'elles, qu'on se fasse instruire, qu'on travaille à l'extérieur, qu'on ait plus d'argent, qu'on puisse voyager... Il a été très difficile de voir qu'on les dépassait d'une certaine façon. Et la couture, c'était son domaine. Et dans les derniers moments de sa vie, elle avait l'impression que je lui enlevais même ce qui faisait son identité, que je m'étais même accaparé une partie de ce qu'elle était. Et ça, ça m'a fait très mal. Mais c'est une femme qui, d'un autre côté, n'a jamais été envieuse. Parce qu'il y a des femmes qui envient maladivement leur fille et qui ne peuvent pas supporter que leur fille s'éloigne d'elle
oui.
Et puisse les dépasser d'une certaine façon. Et elle, non, pas du tout. Elle était contente, elle a dit « J'ai fait la vie des femmes de ma génération, toi, tu peux faire autre chose.
Mmh. » Oui, oui.
Alors, elle s'était satisfaite de ce qu'elle avait pu faire, mais quand même, il y avait des petits relents. Et on ne peut pas la blâmer.
Mais non, certainement pas.
On ne peut pas la blâmer.
Louise Dupré, je rappelle, on ne sait jamais pour les gens qui viendraient juste de se joindre à nous, qu'on parle de ce livre, l'album Multicolore, où il est fait référence, en fait, du début à la fin, au décès de cette maman que vous aviez, que nous avons tous. C'est pourquoi ce livre nous parle tant. C'est parce que, comme on se le disait, il y en a eu beaucoup de livres qui se sont écrits. J'ai reçu déjà plusieurs personnes, mais il n'y a pas un livre pareil.
C'est ça
qui est fou.
Oui.
Hein. Et alors, il y a cette phrase, parce que vous revenez beaucoup sur les vraiment tout derniers moments, jusqu'au dernier souffle. Mmh. Ça, c'est au début du livre, lorsqu'il y a ce grand silence qui s'installe et que vous aimeriez finalement qu'il se prolonge. Et que là, vos frères rentrent et tout d'un coup, la vie reprend ses droits dans la chambre. Ça, c'est tellement bien écrit. Et il y a une phrase en page 68. Je m'étais souvent... impatienté en entendant la phrase « On est seul et on meurt seul », cette phrase cessait d'être un cliché. Pour la première fois, parce que votre maman avait quand même 97 ans, c'est la première fois que tout d'un coup, cette phrase-là vous frappait, puis que finalement vous vous disiez « Mais mon Dieu, c'est vrai ».
C'est qu'il y a dans la sagesse populaire des phrases qui nous paraissent des clichés, qu'on entend constamment et on se dit « Ah, bon sang, on ne sait pas quoi dire d'autre ». Mais on se rend compte par moments que c'est vrai et que les gens savent certaines vérités qu'on ne veut pas admettre.
Oui. Et qui ne sont pas faciles à vivre. Parce
et qui ne sont pas faciles à vivre.
Ce dernier soupir-là, je l'ai vécu aussi moi-même avec quelqu'un de très, très proche. Comme le disait le docteur Van Bonker dans son livre « Ces comédiens qui ne savent pas mourir », on n'est jamais près de la réalité lorsqu'on regarde la mort via un film ou via... Il y a aussi une page, moi, qui m'a semblé terrible parce que ça arrive tellement souvent sur la culpabilité. Le moment où il y a la visite de la travailleuse sociale, vous vous en souvenez d'ailleurs dans les moindres détails, c'était une femme absolument charmante. Alors et votre mère, évidemment, qui est très droite là dans son fauteuil, qui essaie de lui donner le change, et l'autre lui pose des questions et votre mère qui répond mais oui, je suis tout à fait capable de faire ça, et que vous discrètement vous faites signe à l'autre non, elle n'est plus capable. Et là vous insistez sur la culpabilité. Comme si on n'en avait pas assez. On s'en rajoute encore une couche, Louise Dupré.
Ben, c'est très difficile pour les enfants de ma génération d'avoir à placer leurs parents. Alors, c'est une blessure terrible. On a l'impression d'être méchant.
Oui.
Parce que ces parents-là nous ont donné la vie.
Oui.
Se sont occupés de nous, nous ont aimés, nous ont fait instruire. Nous ont donné tout ce qu'ils pouvaient, en somme. Et nous, on est obligés de... On a l'impression de les rejeter.
Oui.
Et c'est insupportable. C'est insupportable, il faut le faire, mais je trouve qu'on n'insiste pas assez sur la culpabilité des gens qui ont à faire ce choix-là pour les parents, qui souvent ne peuvent plus le faire eux-mêmes.
Absolument. Et puis surtout qu'on est au courant, on sait qu'il y a des civilisations où on garde nos personnes âgées avec nous, comme en Asie. Nous, on ne le fait pas, du moins dans une certaine mesure. Alors ça rajoute. Hein.
Ça rajoute. Et si vous me permettez...
Je vous en prie, Louise.
C'est-à-dire que nos parents ont voulu qu'on soit qui on est, qu'on soit des femmes actives, qui travaillent, qui ont des familles, qui s'occupent. Alors, c'est clair qu'on ne peut pas travailler et s'occuper de ses vieux parents en même
temps. Mais non, c'est certain.
Donc, on se retrouve dans une contradiction.
Oui. Oui, 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 absolument.
Et c'est très difficile.
Surtout que dans votre cas, et vous le dites aussi à un moment donné, blesser ma mère, voilà justement ce que je
Exactement.
Ne voulais pas. Vous avez vécu toute votre vie dans le souci aussi de ne pas blesser votre maman. On est nombreux dans ce cas-là aussi.
Oui, oui, oui. Hein?
Louise Dupré, on va refermer l'album multicolore pour ouvrir un autre livre, parce que je vous ai demandé, comme à tous les auteurs qui viennent ici présenter leur livre, d'en amener un qui n'est pas d'eux, mais qui leur tient à cœur, et vous avez choisi La Place d'Annie Ernaux. Pourquoi?
Parce que j'aime beaucoup l'écriture d'Annie Ernaux, qui travaille, elle aussi, une écriture autobiographique, et La Place, c'est un livre sur son père. Alors, au tout début du livre, son père meurt et elle décide d'écrire l'histoire de son père. Et elle aussi part de petits faits, de souvenirs, de photos, de phrases, et elle y va par fragments. La mémoire lui revient progressivement. Et le livre s'arrête quand elle a l'impression qu'elle ne peut plus rien apporter au personnage de son père.
Oh!
Et moi, ça m'a beaucoup touchée parce que c'est le pendant de l'album multicolore, même si ce sont deux livres très différents, très différents. Ils ne sont pas écrits de la même façon. Elle se tient à distance. Moi, je me tiens dans l'émotion et à proximité de ma mère. Mais ce qui m'a touchée, c'est qu'elle vient d'une classe sociale très modeste, comme la mienne. Et que, effectivement, il y a beaucoup de choses que je reconnais, beaucoup de faits que je reconnais chez elle, beaucoup de sentiments aussi. Alors, elle a été élevée en France, en Normandie. Elle est un petit peu plus âgée que moi, mais on se rend compte que malgré la différence des cultures, la culture française et la culture québécoise, que les petites gens se ressemblent.
Absolument. Et vous l'avez rencontrée, Annie Ernaux, déjà?
Je l'ai rencontrée une fois. C'est une femme charmante.
Ah oui, hein? Louise Dupré, c'est ainsi que ça se termine. Pouvez-vous croire que ça fait déjà presque 15 minutes que nous conversons ensemble? Oui, je sais, ça passe très, très vite. J'ai été très émue de vous recevoir pour que vous nous parliez de ce livre, l'album Multicolore, qui bien sûr est disponible au SQLA, comme d'ailleurs le livre d'Annie Ernaux. On va rappeler son titre, c'est La Place. Louise Dupré, bientôt un prochain livre, je l'espère. Il ne nous reste plus qu'une petite vingtaine de secondes.
Merci beaucoup, Clotilde Seille.
À bientôt. Merci. Et sur Canal M, vous écoutez Des livres plein les oreilles, et c'est toujours Clotilde Seille en votre compagnie et ses invités. Alors, cette charmante petite musique nous amènera de temps à autre vers une nouvelle chronique, ben nouvelle non, mais c'est la première fois que je la fais cette année dans le cadre de cette émission des livres plein les oreilles. Il s'agit d'une chronique qui va s'appeler « Sur la table de chevet de Clos », autrement dit de moi-même. J'ai deux livres dont il faut que je vous parle à tout prix, qui sont juste à côté de moi lorsque je me couche. Et avant de commencer par ce premier livre qui s'appelle « Dépasser l'horizon », qui est signé Mylène Paquette. Oui, là, Mylène Paquette, je voudrais simplement qu'on écoute ceci.
Ram, ram, rameur, ramé, on n'avance à rien dans ce canoë. Là-haut, on te mène en bateau, tu pourras jamais tout quitter, t'en aller, tais-toi. On avance à rien dans le canoë. On avance.
Mylène Paquette est la première personne des Amériques à avoir traversé l'Atlantique Nord à la rame en solitaire. Une aventure humaine qui va bien au-delà de l'exploit sportif. Et sur un ton très personnel, elle nous raconte l'histoire de son odyssée, comme on ne l'a jamais entendue depuis l'instant où elle en a eu l'idée jusqu'à son départ en mer, son arrivée triomphale en France et son retour à Montréal. Et dans ce livre « Dépasser l'horizon », qui est donc sur ma table de chevet, elle nous confie ce qui l'a poussée à vivre cet incroyable périple. Pourquoi un inconnu lui a prêté des milliers de dollars? Comment elle a connu Hermel, l'homme aux yeux pleins d'étoiles? Les moments charnières et les rencontres décisives, c'est un parcours palpitant qu'elle seule pouvait nous dévoiler. Dépasser l'horizon, c'est le récit inédit d'une exaltante quête d'absolu et j'ai très envie de vous en lire un large extrait. Durant notre conversation, j'entends résonner à la radio VHF « Here is Queen Mary II, Queen Mary II, Queen Mary II ». Nerveuse, je saisis l'appareil et échange quelques mots avec l'officier. Et enfin, je vois poindre à l'horizon un tout petit point blanc qui s'avance vers moi. J'échange encore quelques mots avec Jean-Pierre qui me confirme tout enregistré de notre conversation car je ne veux rien perdre de cette rencontre fabuleuse. J'explique à Jean-Pierre de rester au bout du fil et je le mets bientôt sur main libre pour mieux m'adresser au bateau. La silhouette se dessine et grossit jusqu'à ce que je puisse en distinguer les lignes. Je m'extasie devant le spectacle. Je m'exclame sans cesse qu'il est droit devant. Ce n'est pas un mirage. Le paquebot est bien là, avec l'immense silhouette devant moi. Je perds le nord. Je distingue maintenant trois petites silhouettes d'hommes habillés de noir sur le pont avant. Je crie à tout rompre que je vois des humains. Je vois des humains, droit devant. Le paquebot est là, à peine à 200 mètres de moi. Je vois des bras me saluer, des flashs d'appareils photo, des milliers de silhouettes. Je sens une cacophonie de vibrations frapper mes tympans. Je vois une portière s'ouvrir sur le flanc bâbord du grand bateau. Je remarque maintenant une longue ligne apparaître, au bout de laquelle pendent des contenants jaunes. Je vois plus haut que des hommes les descendent lentement dans l'eau. Je prends place à mon poste de rame pour m'approcher de l'énorme bâtiment. Maintenant, des milliers de voix s'élèvent dans le ciel, m'encourageant à rejoindre mes paquets. Je dirige l'Hermel dans la direction de la petite bouée orange qui flotte et qui part très rapidement vers la poupe du bateau. Je manœuvre pour arriver entre les ballots jaunes et la bouée. Au moment où je manque les ballots en voulant les attraper, la foule s'exprime, déçue. Elle m'encourage à essayer encore. Je mets toute mon énergie dans ma rame de tribord pour tourner mon bateau et je pousse encore plus fort pour rejoindre les ballots devant. La foule s'exclame de plus belle. Je lâche mes rames et j'agrippe de mes mains mon premier ballot. J'empoigne de toutes mes forces le paquet qui me surprend par son poids trop lourd. J'extirpe chacun de l'eau en entendant la foule excitée derrière moi. Au moment où je tente de prendre le dernier, il se détache et retombe dans l'eau. Et voilà la foule qui s'énerve pour moi. Je me lance par-dessus mon garde-fou pour le rejoindre le plus rapidement possible. Mon bateau vacille sous le poids maintenant trop lourd à bâbord. Aussitôt le ballot a crippé, je l'emporte dans mon cockpit où je le lance violemment et après quoi je lève les bras au ciel en signe de victoire. Des cris jaillissent de la reine des mers pour répondre à mon geste ainsi que des sifflements et du tapage. Des gens scandent mon nom. Je suis transportée par une vague énorme de célébration. Je crie, je pleure et je ris en même temps. Je me sens émue, touchée, saisie d'une envie folle de tous les embrasser et de les prendre dans mes bras. La foule est belle, merveilleuse. Je sens jusqu'ici toute la volonté qu'elle a pour moi. J'entends alors le capitaine s'adresser à la foule dans les haut-parleurs du navire et doucement lui expliquer mon voyage. J'entends mon nom, mon parcours, mon lieu de départ et le nombre de jours de mon escapade. Le nombre 84 résonne jusqu'à moi. Le capitaine demande aux passagers de s'exprimer tous en même temps. Il me chante maintenant une ritournelle dans laquelle je reconnais mon nom. Devant cette gentillesse, je suis émue comme jamais. Je suis transportée par une vague d'amour et de soutien. Je me sens unique au monde, comme une rock star. Mon bonheur est tellement grand qu'il me fait presque mal. Voilà, c'était un extrait de « Dépasser l'horizon » de Mylène Paquette, un livre dont je me régale avec des photos exceptionnelles sur ce parcours merveilleux de cette jeune femme, Mylène Paquette, que j'essaie désespérément d'avoir à l'émission. Pour l'instant, ça part mal, mais je ne désespère pas. Je me dis qu'après tout, si j'ai réussi à attirer dans mes filets Dany Laferrière, je vais bien réussir à avoir un jour Mylène Paquette. Je vais vous parler dans quelques secondes d'un autre livre. C'est une bio. Elle est consacrée à Robin Williams. Robin Williams, 1951-2014. Qui ne se souvient pas de son légendaire « Oh, capitaine, mon capitaine » du Cercle des poètes disparus, ou alors de sa prestation aussi touchante que délirante de Madame Doubtfire. Tour à tour ami de la famille, maître à penser ou clown, ce comédien jovial cachait pourtant un homme tourmenté. À ce sujet, je voudrais d'ailleurs vous lire un extrait de ce livre que je vous présente maintenant et qui est aussi sur ma table de chevet, qui s'intitule « Robin Williams, au capitaine, mon capitaine » et qui a été écrit par Émilie Herbert, je le prononce à la française, Herbert s'écrivant comme le prénom H-E-R-B-E-R-T. Voici donc un extrait de ce livre. Un extrait qui commence par une citation de Robin Williams. « Vous allez connaître des moments difficiles, mais vous vous souviendrez toujours des belles choses auxquelles vous n'avez pas vraiment prêté attention. » En fin de compte, personne n'est en mesure d'expliquer ce qui peut pousser quelqu'un à bout. Robin Williams était au plus bas, ses revers professionnels ayant sans doute joué un rôle important, mais il s'était battu toute sa vie contre la dépression. Ses inquiétudes quant à sa santé et à l'argent n'ont pas arrangé les choses, mais ce qui lui est arrivé est la conséquence d'une longue lutte et non d'une série de contretemps. Comme sa fille Zelda le fit remarquer après sa mort, il ne se rendait pas compte combien il était aimé. Même ceux qui avaient prétendu le détester quand il était à son apogée furent accablés de chagrin en apprenant sa disparition. Sans vouloir jouer les psychologues de pacotille, on peut affirmer qu'il finit par sombrer dans un trou noir, à l'image d'un certain nombre de comédiens exceptionnels, finalement terrassés par un monde qu'ils ne supportaient plus. On a souvent accusé Robin d'être trop sentimental, peut-être, mais trop sensible serait sans doute plus juste. Alors, je vous rappelle le nom de ces deux livres que j'ai sur ma table de chevet et que je voulais partager avec vous, de Mylène Paquette, « Dépasser l'horizon » et Robin Williams, « Au capitaine, mon capitaine », une biographie d'Émilie Herbert. Évidemment, ces deux livres sont disponibles via le SQLA gratuitement. La semaine prochaine, je vais recevoir ici Stanley Péan, mais oui, animateur de radio, mais aussi auteur, bien évidemment, amoureux de jazz aussi, ancien collègue à Radio-Canada. Ça va me faire très plaisir et très drôle de retrouver Stanley dans un autre studio que ceux que j'ai connus dans la Grande Tour. Nous parlerons entre autres de deux de ses livres qui sont Bizango et La mémoire ensanglantée. Alors Bizango d'abord. Vous savez, en Haïti, Bizango, ça peut être deux choses. Soit le membre d'une société secrète doté du pouvoir de se dévêtir de sa peur humaine et d'adopter toute autre forme de son choix, le plus souvent celle d'un animal volant ou rampant. Ou alors, c'est moins usité, mais ça peut être aussi la victime d'un tel sorcier condamné à se métamorphoser en bête carnivore à la tombée de la nuit. Alors, Bizango, c'est un roman qui comporte plusieurs entrées et une seule sortie, nous dit un lecteur. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles, pendant plus de la moitié du livre, l'histoire s'alterne entre différents protagonistes, ces derniers finissant par tous se trouver à la fin. Et puis, c'est aussi une histoire qui oscille entre réalité sociale dans le monde dans le Montréal d'aujourd'hui et le folklore haïtien. C'est un livre que ce lecteur a pris beaucoup de plaisir parce que c'est un roman vivant. Il est énormément question du folklore de Haïti et cela contribue à rendre la lecture plaisante et entraînante, nous dit la personne. Qu'il soit ange ou qu'il soit démon, une chose est sûre, le Bisango dont nous parlerons avec son auteur, Stanley Péan, ne laisse pas indifférent. Et pour tenter de saisir sa véritable essence, je vous invite à découvrir ce très bon polar de Stanley Péan, mêlant le Québec moderne au folklore d'Haïti. Et puis nous évoquerons aussi La mémoire ensanglantée, ce roman fantastique qui fait lui aussi le lien entre Québec et Haïti, entre le présent et le passé. Le papa de Leila exige qu'elle s'occupe pendant ses vacances de Granny Irma, qui est une vieille parente qu'aucune gouvernante ne peut supporter. Leila arrive donc dans une vieille maison isolée des Laurentides, une maison sale, sombre, où règne une chaleur étouffante et heureusement, il y a Samuel, si sexy sur son vélo. Alors, dans de vieux albums de photos, Leila découvre qu'elle ressemble énormément à Nina, la fille de Granny Irma, qui s'est suicidée dans des conditions mystérieuses. Voici donc pour ce livre que je vous recommanderais très fortement et dont nous parlerons avec Stanley Péan la semaine prochaine. Pardon. On se demandera notamment si Nina a pardonné à sa maman de l'avoir conduite au suicide. Alors, d'une rubrique à l'autre, mes enfants, mais ça n'arrête pas, mais c'est un feu roulant de livres dont nous vous parlons aujourd'hui. Nous arrivons maintenant à cette autre rubrique qui est des nouvelles et des livres. Dans Le Devoir, cet été, il y a eu une série vraiment formidable qui s'appelait Point Final, dans laquelle on revenait sur la vie, mais surtout sur la disparition de certains grands auteurs. Et notamment, une fois, on s'est intéressé à Edgar Allan Poe, englouti dans ses ténèbres, écrit Antoine Duplan, qui nous dit dans Le Devoir, l'écrivain américain qui a inventé le roman policier et la science-fiction, qui a anticipé la théorie du Big Bang et la psychanalyse, qui a lancé des journaux, qui a instauré le romantisme noir et plongé dans les tréfonds de l'âme humaine, cet hypochondriaque et mélancolique n'a pas su conjurer ses démons. Il a bizarrement trébuché. Alors voici donc ce texte où M. Duplan commence par nous raconter que nous devons à Edgar Allan Poe la noirceur de la nuit. Plongeant dans les gouffres de la terre et du cauchemar, maelstroms et catacombes, il l'a exprimé avec plus de douleur que n'importe quel autre poète. Il l'a explicité aussi. Pourquoi la nuit est-elle noire ? Alors que les milliards d'étoiles tapissant la voûte céleste devraient nous aveugler de leur éclat. Eh bien, disait Edgar Allan Poe, parce que l'univers est en expansion et que la lumière des astres les plus lointains ne nous est pas encore parvenue. La couleur du deuil sied à Edgar Poe, le noir, toujours né de parents comédiens, il connaît la misère noire avant d'être recueilli par un négociant en tabac qui s'appelait John Allen, d'où son nom de Edgar Allan Poe. La mort marche à ses côtés. Il n'a pas 20 ans lorsqu'il cisèle ses vers, résumant sa vie et son œuvre. « Je ne pouvais aimer que là où la mort mêlait son souffle à celui de la beauté. » Sa maman, puis Fanny Allen, sa mère adoptive, Jane Stannard, la mère d'un ami qu'il vénère, et plus tard Virginia, sa jeune épouse, meurt de consomption. Elle hante ses écrits sous la forme de ladies folles, dames blanches enterrées vivantes, telles Bérénice, Madeleine Usher et Lénore, chantées dans Le Corbeau, le plus ténébreux et le plus fameux de ses poèmes. Doté d'une intelligence supérieure, Edgar Allan Poe, apte aux raisonnements déductifs les plus complexes, démontré par la logique, la supercherie de l'automate qui joue aux échecs, le poète du cauchemar, l'idole du romantisme noir, est un homme en avance sur son temps, curieux des progrès de la science et convaincu de l'irrépressible avancée du journalisme. Le 28 septembre 1849, à Richmond, Poe s'apprête à prendre le steamer pour rallier Philadelphie et New York, où il compte préparer le lancement d'un magazine littéraire. Selon son ami John Robert Thompson, l'écrivain était particulièrement optimiste dans ses résolutions et ses perspectives d'avenir. Au contraire, Elmira Shelton, sa confidente, écrit qu'il était très triste et qu'il se plaignait d'être bien malade. Personne ne sait ce qui s'est passé entre le départ du bateau et le 3 octobre, quand l'imprimeur Joseph Walker voit peau au Gunner's Hall, une taverne de Baltimore, servant de bureau de scrutin pour l'élection au Congrès. Poe porte des habits bizarres, disparates, un pantalon crasseux, mal ajusté, une chemise froissée, un chapeau sale, ni veste, ni cravate. Il est à moitié inconscient et dans un état d'absence et de totale stupidité. Poe reste prostré jusque vers 3 heures du matin, puis il se met à trembler. M. Moran diagnostique une forme de délirium très mince. Comme il lui propose de recevoir la visite de ses amis, Poe rétorque: la meilleure chose que mon meilleur ami pourrait faire serait de me griller la cervelle d'un coup de revolver. La femme du docteur Moran coud le suaire et prépare le corps au moment où Edgar Allan Poe finit par décéder. Et il est enterré au cimetière de Westminster Hall devant seulement 8 personnes, condamné à finir dans l'ignominie, selon Baudelaire, son traducteur. Poe inspire à Mallarmé ses vers. Calme bloc ici-bas, chute d'un désastre obscur, que ce granit, du moins, montre à jamais sa borne, au noir vol du blasphème et part dans le futur. Cet extrait du poème Le tombeau d'Edgar Poe. Alors, quelles sont les causes de ce décès? Alors, on a parlé d'encéphalite, de tumeur au cerveau, de suicide, de choléra, de syphilis, de refroidissement, car il avait fait un temps exécrable sur Baltimore. Un vrai signe avant-coureur du général Hiver, selon la presse. Mais les symptômes, transpiration, tremblement, hallucination, ne trompent pas. Edgar Allan Poe est mort dans une crise de délirium très mince. Sans doute l'écrivain a-t-il été enrôlé de force par des voyous pour participer à des élections truquées. Il aurait voté à plusieurs reprises en changeant d'habit et il aurait été payé en pinte de gin. Ainsi, Edgar Allan Poe, cet esprit brillant, se serait égaré sur la face sombre de la jeune démocratie. Et succombant au démon de la perversité, cette allégorie préfigurant le « ça » qui pousse l'alcoolique à boire, le juste à s'avilir et le randonneur à se jeter dans le vide par peur du gouffre, l'impeccable poète a sombré dans ces ténèbres dont il a été le chantre le plus sublime, échoué au rivage de la nuit plutonienne. C'est un article qui était sorti dans le journal Le Temps. C'est Antoine Duplan qui avait écrit ça. Ça avait été relayé par Le Devoir. Très rapidement, si vous voulez vous plonger dans l'univers de Poe, vous pouvez aller au SQLA. Nous avons les contes et nouvelles, les histoires extraordinaires d'Edgar Allan Poe et les nouvelles histoires extraordinaires. Avec ça, vous vous ferez une très très bonne idée. Des nouveautés en rafale, il y en a beaucoup. Je vous aurais donné décidément énormément de titres. Il y aura eu beaucoup de suggestions de livres dans cette émission, des livres plein les oreilles aujourd'hui. Et ce n'est pas fini. Je vous recommande « Manger ses émotions » de Guylaine Guévremont. Guévremont, G-U-E, il n'y a pas d'accent, V-R-E-M-O-N-T. Qui nous dit « Vous n'en pouvez plus de suivre tous ces régimes sans gras, sans sucre, hyperprotéinés, dissociés, qui se contredisent et vous font même prendre du poids. Votre vie ressemble à une suite de privations et de frustrations qui pèsent sur votre morale comme sur votre silhouette. Vous mangez vos émotions mais ne savez pas comment faire autrement pour perdre enfin les kilos en trop. » Eh bien, dans ce livre éclairant, Guylaine Guévremont, nutritionniste de renom, pose un regard différent sur le rapport qu'on entretient avec le corps et l'alimentation. Son approche approche, simple et éprouvée, fruit de plus de 12 ans de pratique clinique, remet l'humain et non la tyrannie des régimes au centre de l'équation. Au fil des pages, 6 personnes ayant vécu de sérieuses difficultés alimentaires, dont l'ex-danseuse étoile Geneviève Guérard, viennent partager leur combat victorieux. Alors comme elle, mettez fin à la spirale de l'échec et apprenez à mordre dans la vie sans complexe avec « Manger ses émotions » de Guylaine Guévremont. De la bouffe au polar, allez hop là, on franchit le pas. C'est un bon vieux Denis Lehen. Et puis méfiez-vous des apparences, et c'est ce qu'on nous dit pour nous présenter « Quand vient la nuit, l'habit ne fait vraiment pas le moine ». Ce « Quand vient la nuit » de Denis Lehen, d'ailleurs, que j'ai autour de moi, ça se passe à Boston. C'est sa ville fétiche qu'il avait déjà décrite dans « Mystic River ». Cette fois-ci, donc, il revient à Boston avec « Quand vient la nuit ». C'est une formidable histoire de crime, de rédemption et d'amour. Dans l'argot des bas-fonds de Boston, un relais, c'est un bar où transite l'argent de la pègre. Bob Sajinowski, un barman renfermé et solitaire, se retrouve mêlé à un vol qui tourne mal dans le bar de son cousin Marv, alors le voilà pris au piège, d'une histoire dont les racines plongent dans le passé d'un quartier où chacun, famille, amis, ennemis, cherche à survivre, quel qu'en soit le prix. Quand vient la nuit de Denis Lehen, L-E-H-A-N-E. Ah, voilà un titre que j'aime bien. Les Parisiens sont pires que vous ne le croyez. On change encore une fois de décor. Cette fois-ci, c'est de Louis-Bernard Robitaille. Partout sur la planète, on vante les charmes de Paris, mais le Parisien a mauvaise réputation. Mais oui, l'homo parisianus assure ses visiteurs est arrogant et hargneux, à l'instar des garçons de café et des chauffeurs de taxi, jusqu'au concierge du Ritz qui semblait prendre de haut ceux qui ont eu la chance de pouvoir le fréquenter. En France même, le qualificatif de Parisien devient facilement une injure dès que l'on franchit le périphérique. À Marseille, c'est la suprême insulte. Dans les campings de Palavas-les-Flots, il désigne le vantard, qui prétend être copain de bistrot de telle ou telle célébrité. Alors voilà pourquoi même celui qui a toujours vécu intramuros ne pourra s'empêcher, tout en se félicitant d'être un vrai Parisien, de renier régulièrement son appartenance à ce microcosme honni. Il invoquera volontiers ses racines provinciales, gage d'authenticité. Et puis, il n'est pas si étonnant, nous dit aussi Louis-Bernard Robitaille, que le Parisien suscite autant d'animosité. Il vit dans un minuscule îlot où se concentre l'essentiel des pouvoirs. Il a à sa disposition la plus fabuleuse concentration de musées au monde, les universités et les écoles les plus prestigieuses et d'innombrables salles de spectacle. Comment voulez-vous qu'il ne soit pas désagréable? Alors, les Parisiens sont pires que vous ne le croyez, de Louis-Bernard Robitaille. Oh, je peux en parler, je suis même pas parisienne. Allez, on passe à table avec Madame Lysiane Gagnon, oui, la chroniqueuse éditorialiste de la presse qui nous arrive ici avec un récit de table d'ici et d'ailleurs. Cet auteur passionné de voyage évoque ses expériences gourmandes, notamment en France, au Japon, en Italie et au Vietnam. Et là, elle nous raconte, à un moment donné, elle reçoit un coup de fil de René Lévesque à l'époque et qui lui dit « Madame, j'aimerais beaucoup parler politique avec vous ». Alors évidemment, elle accepte. Mais là, à peine il arrive qu'ils sont envahis par énormément de gens qui viennent les déranger. Et elle dit finalement, nous n'échangeons pas deux mots pendant ce dîner qu'ils mènent tambour battant, présidente avec une bonne humeur bourrue à la cour de disciples et d'admirateurs qui s'agglutinent autour de notre table. Et enfin, elle est seule et il dit, enfin on pourra causer. Ça, c'est quand il se retrouve dans la voiture parce qu'il lui dit, je vous ramène. Et elle dit « Enfin, on pourra causer politique, mais il n'y a pas de conversation parce que, écrit-elle, je comprends rapidement que l'évêque a un autre projet pour la suite de la soirée, un projet qui toutefois ne me convient pas. Après avoir dissipé le malentendu, je suis rentrée chez moi en taxi, déçue, mais pas vraiment fâchée contre monsieur l'évêque. » Qu'est-ce que j'aurais d'autre aussi à vous proposer? Il me reste quoi, une petite minute peut-être? Bah, écoutez, puisqu'on est en période d'élection, terrain d'entente peut-être la bio de M. Justin Trudeau avec ce petit extrait. Je suis né le 25 décembre 71, le petit Jésus. La dernière fois qu'un premier ministre a vu naître un de ses enfants alors qu'il était en poste, c'était à la naissance de la fille de Sir John A. Macdonald. Mon père et ma mère avaient tous les deux adopté le mouvement féministe de l'époque qui était en train de révolutionner la façon dont les hommes et les femmes percevaient leur rôle de parents. Autrement dit, là, lui, le papa, Trudeau, il voulait assister à l'accouchement de sa femme et les médecins ne voulaient pas. Eh bien, finalement, il a réussi à y assister et c'est depuis ce jour qu'on a vu des papas pouvoir assister aux accouchements de leur femme. Voilà ce qu'on nous raconte. Je vous laisse. J'ai 10 secondes pour remercier Louise Dupré et pour remercier Gaston Loubier et vous remerciez vous et Mathieu Tessier. À la semaine prochaine.